Les Grandes Gueules sur RMC avec Biofib. L'isolant en chanvre, facile à poser, qui protège de la canicule. Biofib, ça chanvre tout.
RMC, les Grandes Gueules.
Du coup, chômeur qui écoute du reggae tranquillement.
On n'est pas du tout dans la caricature.
Non, pas du tout.
En fumant des pétards.
Ouais, voilà. En fait, le
son canapé en se levant à midi.
Le regard des Français devient sévère.
Oui,
sur les chômeurs.
Durcit quand même ce regard des Français. Oui. C'est un sondage Unédic qui montre que pour 49% des Français, la plupart des chômeurs ne forcent pas pour retrouver un emploi. Les demandeurs d'emploi sont soupçonnés par les Français de ne pas faire de concessions dans leur recherche d'emploi, 60% le pensent, et qu'ils ne veulent pas risquer de perdre leur allocation chômage, 57%. Et à chaque fois, ces chiffres sont en augmentation par rapport à la dernière fois qu'on a sondé les Français chez Unédic. Alors, est-ce que les Français ont raison d'être durs avec les chômeurs ou est-ce qu'on est dans le cliché ?
32-16 pour en parler avec les GG. Qu'est-ce que vous en pensez ? Étienne Liebig, Didier Giraud, Sarah Salman.
Quand on lit ces sondages, on a l'impression que le chômage, c'est quelque chose qu'on touche comme ça, qui tombe du ciel d'un seul coup. Excusez-moi, j'ai jamais travaillé de ma vie, je voudrais toucher le chômage. Mais le chômage, il est lié aux périodes. D'abord, il faut avoir travaillé pour toucher le chômage, premièrement. Donc, si on n'a pas travaillé, on ne touche pas le chômage. Et deuxièmement, le chômage, il n'est pas éternel. Il est une somme... une certaine somme par rapport aux sommes qu'on a gagnées quand on a travaillé et sur un temps déterminé avec une diminution progressive qui s'arrête à un moment et on passe aux minimums sociaux. Donc on n'est pas du tout dans la fête du slip où on fait ce qu'on veut quand on veut.
Tu peux faire un peu de chômage, un
peu
de travail.
Alors, de moins en moins, puisque là-dessus, la législation a changé. D'ailleurs, si on a un problème avec les saisonniers que tout le monde dénonce en permanence en disant, ben oui, mais les gens, on a eu d'ailleurs les gens avant travaillaient tout l'été et puis après, on n'en trouve plus pour travailler comme serveur l'été. C'est justement parce que la législation a changé et que les gens qui travaillaient tout l'été, etc., ou qui étaient saisonniers, qui font en hiver une période de ski, etc., ben ça marche plus. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus les mêmes capacités, la même pouvoir de pouvoir se mettre ensuite au chômage pour attendre la prochaine saison. Donc en fait, la loi a évolué, donc c'est pas si simple.
Que le gouvernement actuel ait déjà fait évoluer deux fois, hein, c'est deux fois que Macron réforme l'assurance chômage, c'est que pour ce gouvernement, il y a un problème, peut-être qu'on profite un peu trop du chômage, sinon ils n'auraient pas eu besoin de réformer cette assurance chômage.
Mais il est certain que dans tous les pays, à fur et à mesure que l'économie devient plus compliquée et qu'on a moins de fric et qu'on peut moins aider les gens, on réforme tout ce qui est de l'avantage sociaux.
La réforme du gouvernement, c'est pas celle-là. C'est que ils disent quand on va vers le plein emploi, il faut durcir les conditions du chômage. Mais en revanche, effectivement, quand on est dans une période de fort chômage, au contraire, il faut être plus généreux. C'est une espèce de balancier qui veulent mettre en place.
Sauf qu'il y a toujours un différentiel important entre les métiers proposés aujourd'hui et les compétences des gens. On est toujours dans ce même problème que effectivement il y a des boulots de serveur, mais que tout le monde ne veut pas être serveur quand tu as, je sais pas, une licence de droit.
C'est l'inadéquation.
Ouais, mais c'est que les Français prennent conscience aussi que la période est différente de toutes celles qu'on a connues jusqu'avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de la croissance, il y a des secteurs, on n'arrête pas en parler.
Il y a plus le confinement.
Voilà, qui sont en demande de main-d'œuvre. Donc, on se lève.
Le sondage, c'est le ressenti des gens par rapport à ceux qui sont au chômage. Alors, ça peut ne pas être la situation réelle, mais tu as quand même plein de secteurs d'activité qui n'arrivent pas à recruter. Et ça agrandit ce phénomène. Et puis, il y a aussi le point d'équilibre qui fait que c'est rentable d'aller travailler. Moi, je suis désolé, quand il y a de l'inflation, ça coûte de plus en plus cher d'aller travailler. Et ceux qui ne vont pas travailler ont de plus en plus d'aide, quoi.
Ah non ?
Et le point d'équilibre...
Ils n'ont pas de plus en plus d'aide, c'est faux.
Le point d'équilibre... Ceux qui vont travailler de façon périodique, ceux qui vont travailler... Enfin, quand on dit aujourd'hui, on va te refiler un chèque énergie, on va te refiler un chèque essence, si tu as des conditions de salaire moindres, ça fait que le point d'équilibre qui fait que il est plus rentable de prendre sa bagnole et de se lever le matin et de mettre du gasoil dans sa bagnole. À chaque fois que le gasoil il augmente, je suis désolé, ce point d'équilibre il s'abaisse vers le fait que ce n'est pas rentable d'aller travailler, trouver une nounou, machin. Mmh. Quand tu additionnes toutes ces charges et les gens qui travaillent, ils ont ce sentiment-là que eux, eh ben, ils payent partout, ils payent pour aller travailler et d'autres attendent que le chômage tombe. C'est quand même un sentiment qui se développe de plus en plus, quoi.
Moi, je suis contente que les Français prennent enfin conscience des choses parce que je vais reprendre l'intitulé. Un Français sur deux estime que les chômeurs sont responsables de leur situation. Eh ben, oui, qui d'autre serait responsable? On peut, moi, j'en ai un petit peu assez de cette logique de victimisation où on dit toujours, c'est pas de ma faute, c'est les circonstances. Ben non, c'est de ta faute, c'est à toi de te bouger. Chacun est responsable de son destin. Donc, on peut avoir des coups durs. Mais quand le coup dur, c'est à vie, je pense qu'eh bien, il y a des fainéants et des gens qui sont dans une logique d'assistanat et de fainéantise où ils ont une perspective de carrière de chômage, où c'est travail, chômage, et quand ils travaillent, ils font un peu de grève. Donc, j'aimerais que les gens prennent conscience de ça et qu'on est tous responsables de son destin, parce que moi, je ne crois pas au déterminisme.
Non, il y a la conscience quand même que certains profitent un peu du système, entre guillemets. Effectivement, je travaille
c'est
suffisamment.
C'est pas chômage à vie, mais c'est.
Je travaille suffisamment pour toucher le chômage. Ensuite, je suis au chômage, mais je suis un peu black. Oui. Bah, je veux dire, on connaît tous autour de nous des gens qui nous ont dit tiens, je suis au chômage, je vais en profiter un peu. Tu vois, là, j'ai une période de chômage, je vais en profiter un peu. Comme si c'était en fait un droit, finalement, parce qu'effectivement, on cotise tous.
C'est un droit.
On cotise tous.
Et puis le fait ça coûte plus cher d'aller travailler pour un petit boulot.
Mais après, faut avoir Didier.
Ça, c'est un autre
problème. Ouais, mais ça accroît ce phénomène que tu décris, Olivier.
Non, c'est pas le même phénomène. Je pense que ceux qui profitent un peu, c'est plutôt les cadres. Et d'ailleurs, l'assurance chômage visait un peu, la réforme de l'assurance chômage visait plutôt les cadres. Qui ont les moyens, parce qu'effectivement.
Il y a 2-3 000 balles de chômage.
Voilà, si tu as 2-3 000 balles de chômage, tu peux dire bon, ben pendant 6 mois, j'attends, je sais que je retrouverai dans ma partie du boulot, donc je peux attendre, je peux en prendre
les journalistes.
Ça, ce sont plutôt les cadres.
Non, mais...
Ensuite, c'est différent. S'il y a des gens, effectivement, quand ils bossent, finalement, il n'y a pas beaucoup de différence entre ce qu'ils ont, parce qu'ils ont des petits salaires, et ce qu'ils pourraient toucher.
Mais ça leur crée des charges d'aller travailler.
Mais ça, c'est plus le problème du salaire.
Non, mais c'est aussi une question de fierté personnelle. Comment on peut se dire je suis le matin et je fais rien de ma journée, mais il y a un peu d'ego.
D'abord, Sarah Salman, je te signale que en dehors du travail, il y a d'autres activités. Par exemple, tu prends le cas de l'Allemagne. En Allemagne, les femmes ne travaillent pas en très grande quantité. Les femmes ne travaillent pas.
Oui,
d'ailleurs, il y a très peu de crèches, il y a très peu de moyens. Donc les femmes, voilà, la politique familiale. Donc les femmes sont à la maison. Comparativement à la France, ça ne veut pas dire pour ça que c'est des grosses feignasses. Je veux dire que de raconter sans arrêt que le travail est la seule et unique perspective dans la vie et qu'en dehors de ça, il n'y a pas de vie. Moi, je ne suis pas d'accord. Il y a absolument d'autres perspectives dans la vie. Et il y a des gens qui peuvent effectivement faire ce calcul de vivre très pauvrement, de dire je vais essayer de travailler faire des cédants. Mais d'accord. Mais il y a aussi des gens qui peuvent faire ce calcul en disant j'ai autre chose dans la vie que ça. Et notamment, et je dis, il y a des pays qui l'ont admis. En Allemagne aujourd'hui.
En Allemagne, c'est subi, pardon.
Non, les femmes. Subi.
Non, mais c'est ce que tu racontes. Excuse-moi. Déjà, c'est quand même assez
misogyne. On va pas se réjouir que
mais sincèrement, il y a beaucoup de femmes qui aimeraient bien continuer à travailler en ayant des enfants. Sauf qu'en Allemagne, effectivement, la politique familiale n'est pas celle qu'on a en France et qu'elles arbitrent.
Ce que je dis, c'est que c'est pas des feignasses pour autant.
Mais c'est pas une réussite, c'est pas un modèle.
C'est pas un choix, donc c'est pas un modèle.
Non, mais
moi, je préfère notre modèle où les femmes peuvent travailler et avoir des enfants.
Mais bien sûr, moi aussi, je préfère ce modèle-là.
Mais tu t'en étouffes.
Bien sûr, je préfère ce. Non, mais je préfère ce modèle. Mais c'était pour répondre à Sarah sur le fait de faire chômage feignantise.
Là, c'est subi.
Alors attendez, parce qu'on a Djilali qui était avec nous. Bonjour.
On va faire avoir des crèches pour pouvoir.
Oui, bonjour.
Bonjour, 37 ans du côté de la Gironde, au chômage.
Tout à fait.
Salaud.
Oui, écoutez, je peux dire salaud à ceux qui travaillent à vos salaires aussi.
Ben oui.
Alors, ça va peut-être plaire à beaucoup de monde, parce que j'espère qu'il y a beaucoup de chômeurs qui nous écoutent et beaucoup de gens révoltés que les gens soient au chômage. Mais aujourd'hui, moi, c'est une décision que j'ai prise parce que j'ai eu deux mauvaises expériences. Mes deux dernières expériences, une qui a duré 8 ans et une qui a duré 11. Moi, j'étais cadre commercial. Dans une société qui était en plein boom. Donc moi, j'ai participé pendant 8 ans à une expansion de cette société. J'estime avoir fait du très bon boulot. Et puis à un moment donné, la politique de l'entreprise ne me convenait plus. Donc on n'était plus forcément d'accord sur tout. Et puis ça s'est arrêté. Bon, c'est la vie, hein. J'en ressors que plus fort. Donc à ce moment-là, il y a eu le Covid qui est arrivé, etc. Donc finalement, ça m'a arrangé d'être au chômage parce qu'on restait tranquillement à la maison. On a profité de notre fille pendant 2 ans. Et là, j'ai repris l'année dernière, pendant 11 mois, Et pareil, très mauvaise expérience avec un patron un peu à l'ancienne, des méthodes qui ne me convenaient pas. Et en plus, sur la fin, vu qu'on ne s'entendait pas trop, bah on s'est arrêté. On a fait une rupture conventionnelle et aujourd'hui, il est hors de question que je retravaille à moins de conditions exceptionnelles. Comme
j'adore votre honnêteté.
Comment vous vivez alors?
Aujourd'hui, on vit avec mon épouse entre son salaire depuis quelques mois, hein, Justin, parce que c'est temporaire maintenant. C'est vraiment que temporaire parce que je ne peux pas continuer comme ça toute ma vie. Mmh. On a à peu près 3 200 € par mois. C'est sincèrement très juste. Beaucoup trop juste, en fait, pour vivre à Bordeaux. Parce qu'on a déjà un loyer de 1 100 €, donc après le reste, on se fait pas trop plaisir, comme d'habitude. Nous qui avions des salaires bien plus conséquents avant, j'ai perdu entre 1 000 et 2 000 € par mois, en fait, de revenus, disons, sur quelques années, entre le Covid, etc.
Bien sûr. Et là, aujourd'hui, du coup, au chômage, vous touchez combien?
Aujourd'hui, je touche 1 600 €.
Et votre épouse, en travaillant?
À peu près 1 500.
Mais 1 600 sur combien de temps, en fait, votre chômage?
Là, il me reste 10 mois, en fait. Donc, en fait, moi, dans
donc
mon
là, pendant 10 mois, vous ne cherchez pas?
Si, par contre, je ne cherche pas. Par contre, il est prévu. Alors, le problème, vous voyez, ça se joue vraiment pour les gens qui sont dans ces situations-là, qui n'ont pas forcément, qui ont un peu cramé ce qu'ils avaient un peu de côté, etc. Avec toutes ces situations-là, oui. C'est que, en fait, moi, mon projet, c'est de monter ma société.
Ah, ça, c'est bien.
Parce que justement, ça va rejoindre ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que j'ai eu deux mauvaises expériences.
Oui, j'avais marre d'avoir un patron. Le rapport, oui, c'est ça.
Et vous voulez plus de lien de subordination?
Ça dépend dans quelles conditions. Aujourd'hui, il faut le dire, en France, et tout le monde le ressent, je
tout
pense.
Tout le monde le dit.
Il n'y a aucune reconnaissance au travail. En fait, vous vous levez le matin, moi je me tapais des 1h30, mais pour faire 10 bornes, parce qu'ici à Bordeaux, c'est devenu pire qu'à Paris. Pour avoir connu Paris, les bouchons à Paris, vous faites 1h30 tous les matins, mais Bordeaux, c'est pareil maintenant. Et j'ai remarqué une chose sur les dernières fiches de paye, quand je gagnais 3 000 à 3 500 € par mois, mon patron payait presque 8 000 balles par mois pour quand je touchais 3 500 net.
Non, mais c'est ça le problème.
Ça vous permet de toucher pendant 10 mois 1 600 €. C'est les choses. 67 milliards d'aides aux entreprises, je rappelle.
Non, mais toutes les phrases que vous dites depuis tout à l'heure, tout le monde les connaît. C'est ça le problème. C'est que le problème, c'est bien beau de parler tout le temps et de dire toujours les mêmes choses. Mais à un moment donné, il ne faut pas jeter la pierre sur les chômeurs. Les chômeurs, s'ils en sont venus à cette situation, c'est une situation qui est hyper délicate pour eux. En plus, surtout que moi, j'ai 37 ans aujourd'hui. Certains ont un peu plus, 40, 50, 60.
Et quand on est au chômage à 50 ans, c'est plus délicat qu'à 37 ans.
Oui. Bien sûr, non, mais je veux dire, mais dans 3 ans, j'en ai 40 et après, le temps passe. Il suffit que je retombe sur une mauvaise expérience.
Il faut voir les choses positivement, il y a peut-être des expériences.
Non, mais ce qu'on retient, Jalili, c'est que vous avez une mauvaise expérience.
Je veux plus aller au boulot, quoi.
Maintenant, vous dites, je prends le temps, simplement, et puis après, je me lance, je monte ma boîte, C'est ce que dit Jalili.
Oui, mais moi, mais après, il faut savoir une chose, c'est que le pire dans tout ça, demain, vous savez ce qui m'est arrivé au dernier emploi, justement? Donc, il me restait 4 mois de chômage. Et je venais juste d'arriver dans cette nouvelle société, d'accord? En arrivant dans cette nouvelle société, je me suis dit, on ne sait pas, est-ce que ça va marcher? Il y a une période d'essai, etc. Et je suis allé au Pôle emploi pour leur dire, j'aimerais rester inscrit au cas où ça se passe mal, parce qu'on ne sait jamais, en fait. Et vous savez ce qu'ils m'ont dit? En fait, je leur devais 600 € sous prétexte que, comme avant, je touchais à peu près 60 € par jour, donc équivalent à ce que j'ai aujourd'hui. Et en fait, ils me disaient, vous nous devez de l'argent si vous restez inscrit. Alors que moi, j'avais fait mon calcul, il me devait...
Vous faites vos calculs, en fait, ouais.
Et en fait, j'avais fait mon calcul, normalement, il me devait à peu près 1 000 €, quoi, parce qu'il restait quelques jours de chômage entre le jour où j'ai embauché le 15 et... j'ai pas les calculs exacts. Et en fait, je leur devais... Alors du coup, il fallait que je me désinscrive le jour même pour que je ne leur doive pas d'argent.
Donc ça, oui.
C'est le principe.
Donc ça vous a un peu...
Le jour où on trouve du travail, on se désinscrit du chômage.
Ah oui, Jilali, je vous remercie dans tous les cas de ce témoignage en toute franchise.
Il est assez parlant de...
C'est honnête,
de
la manière dont Jilali...
Jilali a dit un truc que j'ai... Il a dit un truc, c'est notamment que les gens ont grillé
griller leurs économies. J'ai lu une longue étude sur le, parce que en Angleterre ils vivent exactement le même phénomène que nous sur la question des emplois non pourvus. Et j'ai lu une longue étude sur le fait que les gens qui n'avaient pas repris le travail après le Covid n'étaient pas les jeunes, mais plus particulièrement les 40-55 ans. Et en fait, ils vivaient sur les économies, ils grillaient leurs propres économies, etc. Parce que finalement, ils ne se projetaient plus dans l'avenir. Ils grillaient leurs économies en plus de toucher en Angleterre, c'est rude, hein, de toucher le chômage. Et en fait, c'était aussi leur épargne qui bouffait. Parce que en France, nous sommes des grands épargnants. Et il y a beaucoup de gens qui ont décidé de bouffer leur épargne.
On va continuer d'en discuter avec Camille dans un instant, dans le droit, du côté de la Seine-et-Marne. Elle est au chômage depuis le mois de mars. Et elle en profite. Elle va nous le dire, elle en profite. Bah, pour s'occuper, prendre un peu soin de ses enfants aussi. Chômeurs aujourd'hui en partie responsables de leur situation. 32-16 pour continuer d'en discuter avec les GG en direct sur RMC, RMC Story.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Les GG, je vous rappelle que Noël approche. Les amis, on a un coffre à ouvrir comme tous les jours pendant 3 semaines. Vous vous inscrivez en envoyant coffre par SMS au 732-16. Coffre par SMS au 732-16. Vous arrivez en direct tout à l'heure à 11h20. D'entrée, vous gagnez la Nintendo Switch, le jeu Mario Kart 8.
Oh, j'adore!
Et 2 volants Switch.
Ah, j'adore.
Ça, c'est gagné.
Nintendo,
Après, Kart. Si vous me dites, je tente le coffre, on oublie les cadeaux Switch. Et on regarde ce qu'il y a dans le coffre. Et dans le coffre, ça peut être soit la PlayStation 5. Elle a été gagnée hier.
Oui, donc à mon avis, elle ne sera pas gagnée aujourd'hui.
Soit la PlayStation Classic Mini. Et qui sait, en bonus, les chèques du Père Noël. Et ça va de 500
ça,
à 2500. Et non, c'est pas tombé. Donc je me dis qu'aujourd'hui,
pour la dernière
de la semaine. Le chèque du Père Noël, qui sait, ça... peut-être.
Et il a quelque chose sur son compte, le Père
Entre
Noël.
Entre 500 et 2500 euros.
Toujours quelque chose.
C'est bien gentil.
Il peut filer des chèques en
bois. C'est bien gentil si c'est un chèque en reine.
Donc, vous avez dans le coffre soit la PlayStation Mini de 94, soit la PS5. Mais si vous avez l'un et l'autre, vous pouvez avoir aussi, en plus, le chèque du Père Noël. Hein, parce que c'est le bonus, il se rajoute, le chèque du Père Noël. On n'en a pas eu pour le moment. Donc, qui sait, moi, aujourd'hui... Je tenterai le coup. Donc vous m'envoyez coffre par SMS au 732-16.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
En attendant, on revient à notre discussion sur le chômage avec Camille. Bonjour Camille.
Oui, bonjour les GG.
Bonjour.
Alors cette étude, les Français estiment que les chômeurs sont un peu responsables de leur situation s'ils ne trouvent pas de boulot. Vous êtes au chômage justement?
Oui, exactement.
Et vous cherchez?
Pardon.
Non, je vous en prie.
Depuis mars, là, cette année, pendant un moment, j'ai commencé à chercher. Oui, j'ai fait des recherches, etc. Et en fait, à chaque fois, y a les vacances scolaires des enfants. Donc, moi, j'ai 2 enfants. Ils ont 3 et 5 ans. Et du coup, à chaque fois, j'arrête mes recherches. Je garde
Vous
les enfants
élevez
pendant
seul?
Non, je suis avec mon conjoint.
Il peut pas un peu s'en occuper?
Si, il s'en occupe, mais lui, il a un travail, il est en CDI à temps plein. Donc voilà, c'est moi qui gère les enfants.
Et vous faisiez quoi avant?
Avant, j'étais conseillère funéraire, maître de cérémonie.
D'accord. D'accord. Vous gagniez combien quand vous travaillez?
Je gagnais 1600 euros.
Et là, aujourd'hui, au chômage,
les
indemnités, 1100. D'accord.
Et vous avez du mal à retrouver dans ce secteur-là?
Oui, exactement.
Il y a beaucoup de décès.
Je sais pas trop en ce moment, mais
La 9e vague repart.
Ouais. Moi, je pense qu'il y aura de bonnes perspectives d'emploi pour votre secteur. Je le sens bien.
Mais Camille, pourquoi? Parce que dans votre région, il y a pas non plus beaucoup d'offres.
Non, pas trop. Et c'est surtout au niveau des deux grands groupes qui se tirent la bourre et moi, ça m'intéresse plus de travailler pour des grands groupes, donc voilà.
Mais en fait, vous avez aussi envie de
changer,
d'évoluer. Un virage, quoi, en fait, dans votre carrière.
Un virage professionnel.
Voilà, j'ai peut-être un plan pour vous. Vous pourriez devenir funeral planner, ça cartonne en ce moment.
C'est quoi, funeral planner?
Ça existe aux États-Unis, ça cartonne.
Funeral planner, moi, j'ai plusieurs clients qui ont recours. C'est que vous organisez les funérailles, par exemple. Est-ce que vous voulez du violon pendant votre cérémonie? Est-ce que vous voulez du piano? D'accord. Est-ce que vous voulez qu'on ait conduise quelqu'un? Ça marche pas mal.
Et vous avez donc là, vous seriez à votre compte?
Oui.
Ah oui, ok. Bon, j'avoue que ça me fait un petit peu peur, mais pourquoi pas.
Mais Camille, en fait, si je comprends bien, du coup, depuis que vous n'êtes plus au travail, vous avez trouvé l'équilibre entre votre mari et puis vous occupez des enfants avec le chômage en complément, quoi, c'est ça?
Exactement, c'est tout à fait ça, oui. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand je vois les autres parents qui galèrent le matin à les déposer à 7h à la garderie, récupérer à 19h le soir, mes enfants sont petits, ils ont un rythme. Voilà, moi je trouve
ça... Dans votre cas précis, en plus,
vous en profitez plus.
Camille, il y a le fait que les 500 euros d'écart, si vous commencez à prendre une bagnole, à mettre du gasoil dedans, à chercher une nounou quand vous n'êtes pas là pour récupérer les enfants à l'école... les 500 euros, ils sont vite grillés, quoi.
Bah, c'est aussi ça, effectivement. Ouais.
Alors, ça sauf que c'est éternel. Hein. Voilà, c'est pas éternel. Alors, comment vous allez faire?
Bah, écoutez, là, la résolution en janvier, c'est reprendre le boulot. Voilà.
Mais
là,
en fait, vous découvrez en fait que c'est quand même assez sympa de pouvoir s'occuper de ses enfants un peu plus, quoi, en fait.
Ah, complètement. Franchement, moi, j'ai jamais autant profité, depuis mars.
C'est pour ça que j'ai donné l'exemple de l'Allemagne, mais ça existe et c'est admis. C'est-à-dire qu'on donne aux gens 1500 euros et ils s'occupent de leurs enfants le temps que les enfants sont petits.
Christine Boutin, à l'époque, avait proposé un revenu maternel.
Admettons qu'il y ait le revenu maternel, ça vous tenterait, Christine Camille, pardon. Tu parles de Christine Boutin.
Après, honnêtement, voilà, je pense que c'est bien pour un temps d'être à la maison, de s'occuper bien des sûr. Enfants, etc. Mais je ferai pas ça toute ma vie.
Voilà, c'est pas très épanouissant quand même.
Bien c'est bien
les enfants grandissent.
Mais non, mais ils sont petits, c'est pour ça ils ont quel âge ?
Voilà, ils sont petits. Ils 3 ont 3 et 5. 5 ans.
Ben voilà, 3 et 5.
Ils auront 15 et 16.
Oui, mais ils sont contents d'être avec maman.
Non, mais c'est pas éternel. Et puis du coup, vous êtes prête à parce que pendant la période du chômage, il y a parfois des possibilités de faire des formations pour chercher un autre emploi ou voilà. Est-ce que vous avez pensé à ça ou est-ce que vous voulez rester entièrement dans le même taf?
Alors oui, j'ai vu, je reçois tout le temps des mails, des annonces, mais souvent ça correspond pas du tout avec la branche dans laquelle je suis. Hein.
D'accord.
D'accord. Bah, Camille, dans tous les cas, merci d'avoir été avec nous. Passez de bonnes fêtes de fin d'année.
Merci beaucoup.
Bon courage pour la suite.
Ouais, j'espère vous retrouverez du travail.
Tous les jours, en tout cas.
Merci Camille. À bientôt. Sébastien, est en direct dans les GG. Sébastien, qui est à Nouvion-sur-Meuse. Bonjour Sébastien.
Oui, bonjour tout le monde.
Bonjour.
La forme?
Oui, impeccable.
Quelle température dans les Ardennes?
Moins 27.
Ah, là, il fait moins 3.
Pas l'accent des Ardennes, Sébastien.
Non, j'ai pas l'accent des Ardennes.
Non, c'est vrai, c'est les Ardennes du Sud.
C'est ça.
Et Sébastien, au chômage?
Oui, au chômage depuis le mois de janvier.
D'accord.
Dans quel domaine?
Alors, j'étais responsable dans une société hard discount, responsable de magasin.
Et vous cherchez ardemment?
Alors, je cherchais...
Il y avait un jeu de mots presque avec les Ardennes.
Oui, ardemment dans les Ardennes.
Bien joué.
Pas relevé, c'est subtil, hein. Du coup, je recherche, parce que ça fait un an et là, ça commence à être pesant un peu. Sauf que moi, en un an, donc je suis inscrit au Pôle emploi, bien sûr, et tout, et que j'ai eu zéro appel du Pôle emploi. Pourtant, j'ai un CV très, très fourni, j'ai deux BTS, j'ai travaillé un peu partout, j'ai même mon permis bus, et j'ai eu zéro appel du Pôle emploi pendant un an.
Donc vous dites,
si
je retrouve du boulot, ça ne sera pas par Pôle emploi, quoi, en fait.
Ouais, non, ça c'est sûr et certain. Alors je sais pas comment c'est possible qu'il m'ait pas appelé, parce que franchement, en travaillant dans la grande distrie, en ayant un permis bus et tout, dans les Ardennes, avec Charleville à côté, Sedan et tout, je me dis c'est impossible qu'on me propose rien. Ouais. Bref. Alors moi j'ai fait ma recherche moi de mon côté. Mm-hmm. Donc j'envoie des CV régulièrement et tout. Et tout ce qu'on me propose, c'est des boulots à 1300, 1400, 1500 euros.
Et aujourd'hui au chômage, vous êtes à combien, vous avez dit ?
Je suis à 2100 euros.
Ah ouais.
Ah ouais, bah oui.
Et vous n'arrivez pas à trouver un boulot à la hauteur de ce que vous touchiez avant, quoi, en fait.
Voilà.
Et de vos compétences.
Pourquoi, l'essentiel des problèmes.
Pourquoi, selon vous ?
Ben, pour moi, je pense que tout est sous-payé. En fait, moi, je suis prêt à travailler. Je suis quelqu'un de travailleur, mais je travaille pour la société. Vous savez, on est mal patron. Donc, pendant 10 ans. Travailler chez Lidl, pour pas les citer. Donc j'ai travaillé 10 ans là-bas, donc c'est un boulot très compliqué, physique et tout, mais assez bien payé. Par contre, voilà, je faisais 70-80 heures par semaine, payé 42. Donc bon, je suis prêt à travailler. C'est pas une question de travail ou quoi qui m'inquiète, moi.
Il faut avoir un minimum quand même, il faut être payé décemment.
C'est ça le vrai problème.
C'est le salaire, en fait. Là, j'ai mon beau-frère, par exemple, qui travaille, je dis toutes les marques.
Allez-y, on est entre nous.
Vous aurez des procès, McDo. Mais on transmettra.
Je vous défendrai.
Il travaille chez McDo, il est manager chez McDo, il touche 1 395 €.
Ouais, c'est ça.
À un moment donné, moi, je veux bien. Alors, c'est des boulots qui sont faciles à trouver. Et après, ils se plaignent, eux, qu'ils ont du turnover, qu'ils ont tout ça. Il faut voir les difficultés de travail.
À un moment donné, il faut vivre du fruit de son travail. Ouais. Il y a un vrai problème, pas qu'en France d'ailleurs, mais à partir du moment où on ne vit pas, où on bosse, et on ne vit pas correctement, sans luxe, vivre correctement de son taf, effectivement, ça dégoûte. Et donc, on est sur cette crête insupportable.
Bah, surtout que McDo, c'est difficile.
Mais le volant... De charge sociale et de qui fait que on puisse être dans la situation de Sébastien et dire bah voilà j'attends pour trouver ce qui me convient fait que un employeur qui embauche un mec à 2 000 €, ça lui coûte 4 quoi. Et aujourd'hui, n'importe quel employeur qui donne 1 300 € à son salarié, il préférerait lui donner 2 000, mais que ça lui coûte pas plus cher à la fin. Et je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on sorte aussi du système d'aide et du système de cotisation parce que
sortons des subventions aussi alors.
Mais si tu veux Étienne, tu ramènes toujours à ça
parce que c'est le premier budget de la France.
Un mec qui est chauffeur de bus qui gagne 1 200 €, et ben c'est parce que le mec qui l'emploie, ça lui coûte 2 500 €.
Mais je suis d'accord, il y a une mauvaise répartition.
S'il n'y avait pas ces charges patronales et salariales, et ben il pourrait donner 2 000 à son salarié.
C'est ce qu'on disait l'autre jour,
Sébastien il aurait trouvé son boulot à 2 000 quoi.
Sébastien, merci d'avoir été avec nous. J'espère que vous retrouverez à hauteur de ce que vous attendez simplement comme salaire et comme minimum vital. Ça rejoint un peu notre discussion qu'on avait hier d'ailleurs, où on disait 2 000 € minimum vital aujourd'hui pour pouvoir s'en sortir en France.
Donc ils ne sont pas feignants, ils sont juste intelligents finalement.
On a eu des cas différents.
Dans les trois qu'on a eu,
on peut pas tous les mettre dans la case de Sébastien.
Les
chômeurs sont-ils responsables de leur situation? C'est la question qu'on a posée. Oh non, à 63.
Bravo! Mais il y a un problème avec le vote.
Mais non, il n'y a pas un problème. Tout le monde ne partage pas tes opinions, Sarah Salman.